France Culture. Servane de Pastre.
Des mobilisations ont eu lieu hier dans plusieurs villes frontalières en France et à Roissy pour réclamer la fin des contrôles aux frontières, vous l'entendrez. Nous serons également en Syrie dans ce journal. Un an quasi jour pour jour après la chute de Bachar al-Assad, la guerre est finie, mais les mines laissées par les combattants continuent de faire des victimes. Que vous veniez d'un pays européen ou non, vous pouvez faire l'objet de contrôles aux frontières françaises. Cette dérogation au principe de libre circulation en vigueur dans l'espace Schengen est reconduite tous les 6 mois en France, et ce depuis les attentats de 2015. Hier, des manifestants se sont réunis dans plusieurs villes frontalières pour dénoncer ces contrôles. À Roissy, c'est l'ANAFE, l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les personnes étrangères, qui s'est mobilisée, Édouard Barruet.
Au pied des pistes de l'aéroport Charles de Gaulle, une quinzaine de personnes manifestent. Ils sont devant un bâtiment très protégé et inconnu des voyageurs, une zone d'attente. Dedans, environ 150 places, c'est ici que sont retenus les étrangers qui n'ont pas eu le droit d'entrer en France. Laure Palin, présidente de l'ANAFE, connaît bien cet endroit.
Ça n'a rien à voir avec un hôtel. Il y a des caméras, il y a des barbelés, des grillages et les personnes sont sous contrôle policier constant.
Ici, la justice se rend sans même sortir de l'aéroport. Au rez-de-chaussée est installée une petite salle d'audience. Dedans, une mère et ses 3 enfants viennent du Pérou. Ils ont demandé l'asile, ils espèrent être libérés et ne pas retourner en Amérique du Sud. Mais à Roissy, avec le contrôle aux frontières, un voyageur qui arrive de l'espace Schengen peut aussi y être enfermé. Une procédure abusive selon l'association.
Depuis septembre 2023, la France a été condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne qui interdit qu'on applique la même procédure aux personnes étrangères quand elles arrivent d'une frontière intérieure que quand elles arrivent d'une frontière extérieure.
Les manifestants réunis devant ce mini-tribunal espèrent surtout la fin de ces contrôles.
Ces contrôles aux frontières poussent les personnes exilées à emprunter des voies toujours plus dangereuses. Nous restons mobilisés en solidarité avec ces personnes pour que leurs droits fondamentaux soient respectés.
Parmi ces droits fondamentaux, l'association alerte aussi sur les conditions de détention, notamment dans les cellules de Roissy où des punaises de lit ont été retrouvées.
Édouard Barruet, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, ouvre la voie à une vaccination généralisée des élevages contre la dermatose nodulaire contagieuse. Elle s'est rendue hier à Besançon pour répondre à la colère des éleveurs. En début de semaine, 83 vaches ont été abattues dans le Doubs, provoquant une importante mobilisation. Le chancelier allemand Friedrich Merz est en Israël ce week-end. Il doit rencontrer son homologue Benjamin Netanyahou dans la journée. Les deux dirigeants évoqueront notamment la question de la trêve à Gaza, alors que le Hamas s'est dit prêt hier à rendre les armes si Israël quitte l'enclave. Israël également pointé du doigt par le chef d'État syrien. Hier, Ahmed al-Sharet a estimé que l'insistance d'Israël à démilitariser le sud de la Syrie mettait son pays dans une position dangereuse depuis un an et la chute de Bachar al-Assad. La Syrie a été l'objet de centaines de frappes israéliennes. La Syrie, où la guerre a laissé des traces, c'est le 2e pays au monde le plus affecté par les mines et les engins non explosés. La région de Deir ez-Zor, dans le nord, est particulièrement concernée. L'association Handicap International y effectue entre 4 et 6 déminages par jour. Marie-Pierre Véraud les a suivis.
C'est un enfant qui avait signalé l'engin aux équipes de Handicap International, juste à côté de sa maison. David Francis, responsable de la décontamination.
Et cette zone est très lourdement contaminée. On peut aller dans une dizaine de maisons tout autour et on en trouvera d'autres.
Deir ez-Zor a vu passer toutes les armées, les rebelles, l'État islamique, l'armée de Bachar, les forces kurdes. Chacune laissant son lot d'engins explosifs. Issa a 17 ans. Il y a quelques mois, il a rejoint ses amis pour une partie de football.
Je courais derrière le ballon. Deux de mes camarades couraient devant moi et la mine a explosé sur moi. Je ne peux plus jouer au football ni porter de choses lourdes. Maintenant, je dis à mes amis de faire attention, je n'avais pas conscience de ce risque.
Des enfants mutilés alors qu'ils jouaient, des adultes quand ils travaillaient leur champ ou collectaient du métal. Cette année, près de 1600 Syriens ont été victimes d'engins explosifs, dont 588 enfants. Mais il n'y a pas que l'héritage de la guerre.
Hier, nous sommes intervenus pour désamorcer des ceintures explosives. Les forces de sécurité syriennes avaient fait un raid sur une maison suspecte. Quand elles sont arrivées, elles ont découvert une véritable usine. Elles étaient toutes très récentes. Le danger est toujours partout. Il y a les bombes qui ont été larguées sans exploser, et puis il y a ces engins explosifs improvisés.
Il nous faut davantage d'aide, plaide David. Il n'a qu'une seule équipe pour une tâche titanesque.
Un reportage de Marie-Pierre Véraud avec les moyens techniques de Martin Troidec. Une réunion est organisée demain à Londres par le Premier ministre britannique Keir Starmer avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz y seront aussi. Les dirigeants feront le point sur les négociations en cours sur la fin de la guerre en Ukraine. Et puis, le passé colonial belge au cœur d'une exposition à Tervuren près de Bruxelles. L'Africa Museum décortique une gigantesque peinture sur toile, un panorama du Congo qui avait été présenté lors de l'exposition universelle de Gand en 1913. L'occasion de revenir sur les clichés et les oublis historiques, Fabien Cazot.
C'est un paysage idyllique qui s'offre aux visiteurs lorsqu'ils contemplent ce panorama du Congo. Aucun uniforme, aucune trace d'exaction, un décor en carton-pâte, résume ce visiteur informaticien de profession, Yann.
C'est magnifique, c'est très bien peint, on peut zoomer sur chaque partie. Quand j'étais petit, moi on parlait de Tintin au Congo, justement je l'ai lu, et quand on voit ce panorama, c'est une vraie forme de propagande, parce que ça n'entend rien en fait, l'œuvre de destruction coloniale.
Cette autre visiteuse, Lola, est notamment intriguée par une partie du tableau où l'on voit des villageois rassemblés autour d'un marché.
Voir ces marchés en fait, où les gens ne peuvent rien acheter, qui sont insuffisants par rapport aux besoins de la population, pourquoi ? Et là on vous explique pourquoi. Parce que exploitation des ressources, parce que déplacement de population, et on voit plus du tout la même chose.
Descendants d'esclaves, artistes, intellectuels, des Congolais d'aujourd'hui ont été sollicités par le musée pour commenter ce panorama. Un complément indispensable aux yeux des deux commissaires de l'exposition, Albertine Liber et Patrick Moudekereza.
Les choses qu'on n'a pas pu mettre sur les murs ou présenter, eux le disent.
Et en fait, on a démonté aussi physiquement le panorama. On l'a mis en demi-cercle, de sorte que l'autre demi-cercle puisse être complété par les interventions des voix congolaises.
Une manière de ne pas tomber dans l'écueil d'une nouvelle forme de glorification d'un passé colonial toujours très présent dans la mémoire historique belge.
Fabien Cazot, correspondant à Bruxelles pour France Culture. La météo de ce dimanche, pour finir, de la pluie au nord, des éclaircies au sud. Les températures, elles, seront douces. Il fera 12 degrés à Lyon, 15 degrés à Marseille et 21 degrés à Perpignan.